on essaye de ranimer la flamme. Bon, parallèlement, évidemment, le père qui n'arrive pas à voir sans son fils fait cause des plaintes en non-présentation d'enfants. La cour d'appel statue au mois de janvier 2004, en faisant une déclaration de culpabilité de la mère, en ajournant le prononcé de la peine, en lui disant qu'il faut que le père revoie son enfant. Et en définitive, le 29 juin 2004, elle condamnera la mère à 6 mois d'emprisonnement avec sursis vis à l'épreuve. Alors, moralité, à ce stade-là, avant que nous soyons saisis, nous sommes en appel de divorce. Le père a vu les enfants pendant toute cette période, le 3 décembre 2002 et le 29 janvier 2003, dans le cadre d'une enquête sociale ordonnée par le juge d'enfants, c'est-à-dire le juge d'enfants a fait en sorte de voir comment, dans l'enquête sociale, il fallait bien voir comment les enfants se comportaient avec le père. Donc il disait comment l'enfant se comportait avec le père. Donc il a vu deux fois fin 2002, début janvier 2003. Puis entre le mois de mars et le mois de décembre 2003, ça a fonctionné au SECOF. Pendant 9 mois, il a vu 3 samedis par mois son fils, de 14h à 18h. Et puis, le SECOF s'est arrêté. Ça devait reprendre un droit de visite d'hébergement normal, ça n'a pas repris. Et en définitive, il l'a revu le 5 et le 19 juin 2004, c'est-à-dire juste avant l'audience pénale qui devait statuer sur la paye. Voilà. Et le juge d'enfant, prenant acte de tout ce déglingue, que rien ne va plus, décide de placer en toile le 12 novembre 2004 et ce placement devient effectif le 13 janvier 2005. L'affaire vient devant nous le 20 janvier 2005. Le père de la maison vue, le père d'avocat. Je vous expliquerai ensuite comment on fonctionne dans ce cas-là. Mais la décision était inévitable presque. Nous avons transféré la résidence chez le père. Ah. Oui, mais vous applaudissez, mais est-ce que va-t-il se passer ensuite? Enfin, voilà, mais la décision était inévitable. Deuxième affaire, l'affaire Lydia, qui a 14 ans, et Yanis, qui a 12 ans. Lydia est une fille et Yanis est un petit garçon. Alors les parents sont tous deux de nationalité algérienne. Le hasard fait donc que c'est le même jour que nous avons rendu les deux décisions. Alors les parents sont tous deux de nationalité algérienne. Ils vivent tous les deux en France. Et ils se marient, je pense, quand même en Algérie. Et puis, bon, ça va mal. Ils décident de divorcer. Donc ils retournent en Algérie pour divorcer. Ils sont très, très culture algérienne forte. Le divorce est prononcé le 11 décembre 1996 par le tribunal d'Aïbou en Algérie, qui confie la garde de l'enfant, des enfants à la mère. C'était donc en Algérie. Le père, lui, retourne pour travailler en France, et la mère, elle, est tenue de rester en Algérie avec les enfants. Néanmoins, la justice fonctionne en Algérie et elle obtient l'autorisation du tribunal d'Aïbou de quitter 21 jours le territoire algérien. Et elle part en France. Elle part en France et puis elle revient. Parce que elle préfère vivre en France. Alors, à ce moment-là, évidemment, c'est logique. C'est une logique qui n'est pas tout à fait nécessairement celle des tribunaux français, mais le tribunal d'Aïbou, à ce moment-là, constate que la mère n'a pas respecté les droits du père, et elle transfère la garde, puisque la base, ça s'appelle comme ça, de toute façon, à l'époque, ça s'appelle bien comme ça, en 1997, elle transfère la garde au père en Algérie, la mère est partie, elle a quitté l'Algérie, et elle n'a pas oublié les décisions de justice algérienne. Alors la mère, elle, s'est installée en France, où elle perd aussi, d'ailleurs. Et elle saisit le juge aux affaires familiales de Paris, la procédure s'engage entre les parents qui sont divorcés, sur les mesures après divorce. Alors, le juge aux affaires familiales de Paris, au mois de juin 1999, donc, fixe la résidence chez la mère, et avec un droit de visite pour le père. Alors, dès le mois d'août 1999, le père, profitant de son droit d'hébergement, tout le monde sait, part en Algérie, pas tous deviné. Si, pourtant, c'est relativement classique. Hein. Et il part en Algérie au mois d'août 1999. Il place ses enfants chez ses parents. Et les enfants vont rester 4 ans en Algérie. Hein, sans que la mère, enfin, elle réussira à le voir un tout petit peu au début. Hein, puis ensuite, elle le verra. Donc, 4 ans de séparation. Pour moralité au niveau du pénal. Hein, parce que, évidemment, les machines pénales se mettent en route aussi, c'est inévitable. Hein. En ce qui concerne l'Algérie, ça fait 2 mois sur 6 contre la mère, puisqu'elle est partie avec les enfants. Hein. Et en ce qui concerne la France, 2 ans contre le père, dont un ferme, 1 an exécuté. Bon. À l'issue de sa peine de prison, la mère n'a toujours pas vu les enfants, le père, lui, l'a fait en prison. Pour ça, hein, pas pour autre chose, il a tué personne, mais voilà. Les enfants, le père décide de faire revenir les enfants au mois de décembre 2003. Les enfants reviennent, les enfants ne veulent pas voir la mère. Hein, parce que si le père a fait 1 an de prison, c'est la faute de qui? La faute de la mère. Hein, tout ça. Alors, néanmoins, le procureur de la République. C'est dans l'Est, enfin dans l'Ouest, hein. Réussit à permettre à la mère de voir quelques instants au mois de janvier les enfants. La fille injurie sa mère, qui est une pute, etc. Hein. Bon. Et puis, à la Pentecôte, en janvier 2004, hein, ça faisait plus de 4 ans qu'elle ne les avait pas vus, on réussit encore la justice qui se donne du mal. Réussi à la Pentecôte 2004 à faire venir les 2 enfants à Paris, chez la mère. Ils arrivent, quelques minutes après, les 2 enfants, la grande sœur prend le petit frère par la main et toc, ils partent vers la gare, hein, direction repartir chez le père. Bon, la mère réussit à les faire revenir, mais le père revient chercher les enfants tout de suite et c'est comme ça que ça se passe. Alors ici aussi, le juge des enfants est saisi au début du mois de janvier 2005. Il décide d'une AMO de 6 mois. Les enfants sont entendus par les enfants et refusent absolument de voir la mère. Hein. Et puis l'affaire vient en cet état chez nous le 3 février 2005. Alors, donc en ce cas-là, nous, on procède de la manière suivante. Chaque fois que se pose un problème d'autorité parentale, nous faisons systématiquement venir les parents. Et ceci, même si on en appel, l'assistance, la constitution d'un avoué est obligatoire. Et bien même si un des deux parents, l'intimé, n'a pas constitué l'avoué, on peut le problème. Et donc, dans le cas précis, Eh bien, ils vont venir, et le père de l'Est, la mère de Paris, et le père va amener les 2 enfants, on ne lui avait pas demandé, hein, mais il amène les 2 enfants, pour preuve de sa bonne foi, il dit, moi, je voudrais bien qu'ils voient leur mère, mais eux, ils refusent absolument. Comment voulez-vous que je fasse? Alors, on entend d'abord le père, qui a formé appel contre la décision du JAF qui a confirmé la décision que les enfants, parce que le JAF a confirmé que la résidence des enfants devait être fixée chez la mère. Hein, parce que le père avait ressaisi le JAF en disant, regardez, ils sont avec moi, ils veulent rester avec moi, fixer la résidence des enfants chez moi. Hein, le JAF refuse. Hein, donc il appelle chez nous. Le père fait appel. Et alors il dit, moi je ne peux pas faire autrement, les enfants refusent de voir. Alors à ce moment-là, on l'a beaucoup travaillé énormément. On lui a dit, mais monsieur, les enfants, effectivement, ils ne veulent pas voir leur mère, c'est normal. Hein, puisque c'est elle, pour eux, qui vous a envoyé en prison. Hein. Et il n'y a qu'une personne, une seule personne au monde, qui peut arriver à faire qu'ils acceptent de revoir leur mère. Mais cette personne, c'est vous. Il n'y a que lui. On a travaillé, puis au bout d'un moment, il faut dire que c'est peut-être un peu impressionnant. Hein. On est plus très jeunes, ni les uns ni les autres. Et encore, c'est moi, plus jeune des 3. Donc, on est 3. Hein, j'accepte, bon, c'est vrai, je vais essayer de faire un effort. On dit, on demande pas ça, la parole à la mère. Il dit, moi, j'y crois pas. Hein. J'y crois pas du tout. Ça fait 5 ans que j'ai pas vu mes enfants, pratiquement, hein, sauf quelques minutes par-ci, par-là. Vous dites qu'il va faire des efforts. J'y crois pas du tout. Alors, on dit, madame, est-ce que vous croyez que si on transfère la résidence de Franchet, ça va bien se passer? Il ne sait pas, hein, bien sûr, on voudrait savoir si ça va bien se passer. On s'est retiré pour délibérer, hein, c'est ce qu'on fait, parce que le problème était délicat. Hein, et donc en plein milieu d'audience, on s'est retiré sur les propres, on a discuté, d'ailleurs on n'était pas d'accord. Hein, et puis on s'est dit que quand même il fallait forcer les choses. Hein, il fallait forcer les choses, alors bon, on a du tort, hein, peu importe. Hein, enfin je veux dire, on a nécessairement, enfin peu importe, je veux dire, par là, il faut avancer. Hein, non, bien sûr, il ne faut pas avoir tort. Puis on a décidé d'avancer, hein, et on est revenu à l'audience et on leur a dit bon, il faut rétablir les liens entre la mère et l'enfant. Alors vous allez, et là on a fait jouer fort les avocats, hein, c'est-à-dire on a pris les deux avocats qui étaient très bien, et on a dit aux deux parents et aux deux avocats, bah, écoutez, il y a une table, enfin même on leur a donné mon bureau, hein, et on a pris, parce qu'on a des affaires, hein, dans la prévision, on a passé 4 heures je crois sur cette table. Il y en a 6 affaires par exemple. Et on a placé les deux parents et leurs deux avocats dans mon bureau en disant vous ne sortirez que quand vous aurez conclu un accord. J'exagère. J'exagère, mais il y a de ça. Hein, on est un peu tortionnaire sur les bords. Et puis ils ont travaillé. Hein, ils ont travaillé, ils ont bien travaillé. Enfin, j'ai cru qu'ils ont bien travaillé, je crois qu'ils ont bien travaillé. Hein, et ils ont signé un protocole d'accord. Hein. Ils ont signé un protocole d'accord prévoyant jusqu'au mois, pendant toute la durée de l'AMO, hein, pendant 6 mois, et bien les dates auxquelles les enfants iraient voir leur mère à Paris. Hein. Donc un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, signées par le père et par la mère. Bon. L'accord n'était pas tout à fait parfait, hein, parce qu'il faut dire que, contrairement à la première affaire dont je vous ai parlé, vous avez énormément, vous êtes très riches les deux parents, hein, vous avez beaucoup de moyens, dans cette affaire, lui il était menuisier, elle ne travaillait pas. Hein. Bon, je supposais, ils avaient conclu un bel accord, mais il n'était pas prévu qu'ils paieraient les frais pour aller de l'Est à Paris. Et là encore, à l'audience, on a travaillé dur et on est arrivé à 60% à la charge de frais, hein, pour les frais de transport. À la charge de la mère, 40% à la charge du père. Je crois que c'est ça, non, sur la mère, je sais plus. Bref, l'affaire doit revenir. On a homologué cet accord, et l'affaire revient de juin 2005. Je ne sais pas dans quel état c'est, on va bien voir. Donc ce sont deux approches différentes, je suis trop long. Hein.
Non,
bon, donc je vais aller plus vite pour la suite. Donc je vais vous expliquer comment nous on procède. Donc, chez nous, il y a déjà un jugement, une ordonnance rendue par le premier juge. Ce qui fait qu'à l'audience, on commence toujours par un rapport d'un des trois membres de la Cour, hein, qui synthétise les éléments objectifs, ce qui a été décidé par le premier juge, et quelles sont les prétentions des parties. Donc, c'est la même qualité des choses. On met, d'abord, ça c'est important, on fait un peu comme dans un théâtre, hein, c'est-à-dire on a un premier rang et puis un deuxième rang derrière. Alors, on commence par mettre les deux avocats devant, hein, c'est pas comme ça, si, merci. Et puis, on met les parents derrière, hein, et on leur dit, on vous entendra ensuite. Et on donne d'abord la parole aux avocats. Hein, il est très important, c'est essentiel, ne croyez pas du tout qu'on le néglige, il est très important que les thèses des parties soient exposées, et entendues par la Cour, et entendues par les parties. Les avocats savent très bien que dans cette matière, hein, il ne faut pas qu'il y ait un gagnant et un perdant. Ceci étant, la règle du jeu judiciaire fait nécessairement que pour gagner, eh bien, il faut arriver à trouver des arguments contre l'autre. Hein. Et c'est vrai que souvent, pas toujours. Hein, et c'est fait plus ou moins bien, parfois très bien, parfois moins bien, mais néanmoins, ce sont deux tableaux à charge contre les deux parents. Mais il faut que ce soit dit. c'est indispensable au jeu judiciaire. Alors là, là où, où la pratique de la longue quatrième chambre C est assez originale, c'est qu'ensuite, Madame Bourgeois, la présidente, qui est une femme formidable, mais c'est quand même vrai, elle demande au parti de prendre la place d'avocat, donc les avocats passent derrière, hein, et le parti passe devant. Et on donne la parole d'abord aux parents appelants, hein, puisqu'on suit les règles du jeu judiciaire, nous sommes dans une enceinte complètement judiciaire, hein, et on lui donne la parole, madame, monsieur, avez-vous quelque chose à dire? Et... et c'est intéressant de voir comment les choses partent. Alors, ce qu'il faut dire, ce qui nous surprend, enfin, ce qui me surprend, moi, complètement, je suis récent dans... j'ai toujours fait du pénal, hein, j'ai longtemps joué d'instruction, hein, j'étais procureur en matière financière, c'est-à-dire que je n'avais pas nécessairement vocation à me retrouver là où je suis, mais passant un cours d'appel, j'allais bien aller quelque part, j'étais content d'être là où je suis. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est comme les parents... ça bien parler de leurs enfants. Hein, mais il faut leur donner la parole, parce que si on ne leur donne pas la parole, ils ne peuvent pas l'exprimer, il ne reste que ses griefs. Alors, souvent, néanmoins, quand ils commencent à s'exprimer, eh bien, ils déversent ce qu'ils ont. Hein, c'est-à-dire qu'ils commencent par dire du mal aussi de l'autre parent. C'est normal, ils ont des griefs. Hein, ils ont des griefs à la fois personnels et à la fois par rapport à l'enfant. Et il faut que ce soit dit. Et il faut là aussi, non seulement que ce soit dit, mais que ce soit entendu par l'autre parent qui est assis juste à côté. Hein, et on fait en sorte qu'ils m'entendent. Ceci étant, on essaye de recadrer quand même, hein, c'est-à-dire, à la fois, on ne souhaite pas entendre les griefs d'un parent contre l'autre, car c'est le passé, hein, et très vite aussi, ces reproches, on s'aperçoit assez vite, alors là, je vais en finir ce que vous disiez tout à l'heure, il y a des griefs plus ou moins importants. On peut se trouver dans le grief où, depuis 4 ans, un des parents a fait en sorte que l'autre parent ne voit pas l'enfant. Ça, c'est un grief gravissime. Réellement, comment dire le contraire, hein, surtout si l'autre n'a rien à se reprocher. Hein, mais quand même, il aurait des petites choses à se reprocher, voire des choses un peu importantes à se reprocher. La sanction est gigantesque. Hein. Ça peut être aussi des histoires... de carnet de santé, hein, des histoires de téléphone qui passent mal, des histoires, mais je voudrais qu'il aille à Stanislas et à l'ami à je ne sais pas quoi. Et c'est vrai que ce sont des détails, maître. Ce sont des détails qui sont significatifs de quelque chose. Mais nous, nous n'entendons pas nécessairement comme un parent qui cherche à évincer l'autre. Ça peut être ça. Mais ce qu'on essaye de faire entendre aux parties, car nous constatons que ça fonctionne toujours comme ça, alors peut-être qu'il y a des cas où c'est pas ça, mais pour l'instant je n'ai pas vu que ce soit autre chose. En fait, c'est un problème de communication, une absence de communication entre les parents. Si les parents ne sont pas capables de décider ensemble à quelle heure ça doit téléphoner, si on doit décider à leur place de quelle école ils doivent choisir, eh bien, quand bien même on va dire cette année ce sera Stanislas, Le prochain problème d'autorité parentale qui va se poser, eh bien, si on leur a pas appris à résoudre les problèmes ensemble, eh bien, ils ne répondent pas. Hein? Donc, ce que nous disons, nous ne sommes pas là. Si la Cour tranche votre problème d'aujourd'hui, est-ce que vous serez mieux après? Ils répondent toujours non. Hein? Parce qu'en réalité, si l'enfant a 4 ans, ils en ont encore pour 14 ans à être parents ensemble, et encore. Hein, 14 ans, c'est le strict minimum. Hein, parce que c'est pas parce qu'ils sont majeurs que c'est fini. Alors, d'accord. Donc, c'est pas parce qu'on leur dira faut aller à Stanislas que ça résoudra leur problème. C'est pas parce qu'on leur dira que ce sera 19h30 ou le 19h15 qu'ils ne trouveront pas d'autres problèmes ensuite. Hein. Donc, quand il s'agit d'un problème de ce type, notre boulot, tel qu'on le conçoit, c'est de faire prendre conscience aux parents qu'ils ont un problème de communication. Hein, et que les enfants en souffrent terriblement, hein, et que, le classique, si j'ose dire, hein, c'est on demande au père ou à la mère, est-ce que vous dites bonjour, lors du transfert de l'enfant. Bon, 9 fois sur 10, non. J'exagère. 7 fois sur 10. Hein. Bon, et ça, l'enfant en souffre terriblement. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, la prochaine fois que vous irez chercher l'enfant, ben vous direz bonjour à l'autre parent. Et vous verrez que l'enfant sera soulagé. Bon, donc la première chose, c'est de prendre conscience, quand ce sont des problèmes pas trop importants, hein, je réserve les problèmes essentiels, bien sûr, hein, mais quand les problèmes sont encore négociables, eh bien c'est à eux de résoudre ce type de problème. Et l'enfant n'ira bien que dans la mesure où ils apprendront à résoudre eux-mêmes leurs problèmes d'autorité parentale et à les prendre en charge. Et on leur dit pour ça, vous l'avez compris, on les amène à la médiation. Hein, parce que la médiation est faite pour ça. Et la médiation, c'est leur réapprendre à être parents. Hein, il ne s'agit pas qu'ils s'entendent bien ensemble, sans mais par contre, ils ont encore des années et des années à tirer ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, l'autre cas qui se pose, c'est effectivement l'hypothèse où un des deux parents n'a pas vu l'enfant ou les enfants depuis des mois, voire un an, voire deux ans. Alors ça, nous n'acceptons pas. Hein, et nous abusons de notre autorité, parce que nous avons beaucoup d'autorité, encore une fois, je vous rappelle qu'on est trois, on est tout jeune, hein, nous abusons de notre autorité pour imposer la reprise des relations immédiates. Hein. Immédiate, ça ne veut pas dire on met notre arrêt en délibéré à 5 semaines. Hein, c'est-à-dire on met 5 semaines pour rédiger notre décision. Ceci étant, la reprise des relations, elle ne doit pas avoir lieu dans 5 semaines. Elle doit avoir lieu samedi prochain. Bon, donc c'est ce qu'on fait dans ce cas-là hier encore. Hein, on avait deux parents africains, hein, enfin, d'origine africaine, et pour des raisons XY, mais on s'en fiche, hein, pour des raisons XY, donc la procédure engagée devant le JAF. Devant le JAF, il y a une enquête sociale. L'enquête sociale dit eh ben, ils ont besoin de leur père, ils ont besoin de leur mère. À tort ou à raison, le JAF dit ben, les deux petits chez la mère, le grand chez le père. En définitive, les trois enfants étaient chez la mère, elle garde les trois enfants, hein, et pendant un an, le père est vexé, hein, et le père ne voit plus pendant plus d'un an les trois enfants. Ils arrivent à l'audience, et on arrive dans cette situation. Bon, ni une ni deux, hein, l'objectif de la cour, c'était de dire que, on est deux jours jeudi, dans 2 jours, le père doit revoir les enfants. Hein, et on a réussi à faire signer un protocole d'accord entre les parents, hein, signé à l'audience par eux, hein, et par le juge et par le greffier, et donc copie et mise des parties, comme quoi, eh bien, le père ira chercher les enfants samedi à 10h, les ramènera dimanche à 19h, et on a fixé les deux autres week-ends, puisqu'on a mis à 5 semaines, hein, les deux autres week-ends où le père verra ses enfants. Et on n'a pas statué sur la résidence des enfants. On statuera ça dans 5 semaines. Et peu importe ce qu'on décide, on s'en fiche. Hein, parce que l'essentiel, dans la plupart des cas, pour nous, on voit les choses comme ça, peut-être qu'on a tort, hein, je ne sais pas, il y a des cas où on a sans doute tort. Mais l'essentiel, c'est que le père, c'est que les enfants aient des relations satisfaisantes avec leurs deux parents, peu importe que la résidence soit en alternance chez le père ou chez la mère. Hein. Ce n'est pas l'essentiel. C'est important. C'est pas essentiel. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait encore? Alors, donc, on pratique beaucoup. On essaye de faire qui tombe d'accord à l'hôtel, une médiation. Le chou n'est pas complètement perdu. Donc, on pousse beaucoup à la médiation. Alors, ce qu'on fait encore, c'est qu'on entend parfois l'enfant. Alors, ça, c'est un sujet pas facile, hein, parce que vous n'ignorez pas que l'enfant est pris très souvent d'un conflit de loyauté terrible. Hein, et que l'entendre, eh bien, c'est le mettre en plein milieu, l'obliger quelque part à protéger son père, protéger sa mère, protéger les deux, il ne sait plus quoi faire. Hein. Donc, ceci étant, la loi permet à l'enfant de demander à écrire au juge pour être entendu, et lorsqu'il le fait, eh bien, de toute façon, nous ne l'entendons pas tout de suite. Nous entendons d'abord les deux parents, et nous travaillons les deux parents. Hein, et une fois qu'on a travaillé les deux parents, dit en moins, on n'y est pas arrivé, si j'ose dire, hein, eh bien, s'il le faut, on entend l'enfant. Alors, pour entendre l'enfant, on l'entend à trois, là aussi, simplement, on l'entend pas en salle d'audience, on l'entend dans votre cabinet. Hein. Il a droit à un avocat, il a souvent un avocat, Et on lui dit un certain nombre de choses à l'enfant. Hein, on lui dit d'abord, en premier lieu, on lui dit que c'est pas lui qui décide. Hein, et que c'est la cour qui décidera quoi qu'il arrive. Et ça, c'est important. C'est important à la fois parce que ça ne va pas être lui qui décide, et c'est aussi important parce que ça le décharge du poids de la responsabilité de prendre la décision. Donc ça, on lui dit toujours. On lui dit aussi que l'entretien... on lui montre le petit livre rouge, le code. On dit ça, c'est le code civil. Hein, dans le code civil, il y a dit qu'un enfant doit avoir des relations avec ses deux parents. Bon, on le rappelle, hein, ça, on ne sait jamais. Ça peut servir à quelque chose. Et puis enfin, on lui rappelle, on lui dit que l'entretien sera secret. C'est-à-dire, et on lui laisse en fait le choix, et c'est à lui qu'incombe ce choix par contre, de savoir s'il veut que toute partie de notre entretien soit répercutée aux parents. Mais il est libre de nous dire des choses sans que ce soit répercuté aux parents. Il faut absolument que sa parole soit la plus libre possible. Voilà pour l'audition de l'enfant. Alors, les résultats de tout ça. Bon, les résultats de tout ça, je vous ai apporté quelques chiffres. Parce que j'ai toujours, je vous ai dit que je faisais du financier avant, alors j'ai mis les chiffres. Alors, j'ai apporté ça dans ma chambre. C'est elle qui est la grande prêtresse. Elle est formidable, hein, j'ai déjà dit. Je le répète, mais moi, j'ai fait quelques statistiques. Alors, elle est contente que je fasse des statistiques. Je voulais, en gros, nous avons 36 affaires d'autorité parentale par mois. 4 fois 9, il y a 9 affaires par semaine à peu près. Les chiffres sont exacts pour moi, mars et avril, avant 2005. Avant, j'ai des chiffres aussi, mais ils sont moins précis qu'au fil des années d'or. Donc, je voulais vous dire que pour le mois de mars, on a eu un accord qui arrive à l'audience. 3 accords après médiation, et on a ordonné 10 médiations, ce qui fait un total, donc, parce que puisque pour la médiation, il faut l'accord des deux parents, nous considérons que nous avons réussi 14 accords sur 36 affaires. Hein. Comme par hypothèse, ce sont des affaires toutes extrêmement tendues depuis des années, je pense que c'est un résultat qui n'est pas négligeable. En avril, nous avons eu 6 accords à l'audience. 2 accords après médiation, enfin 6 accords directs, sans qu'il y ait une médiation, 2 accords après médiation, et nous avons ordonné 5 médiations, ce qui fait donc 13 accords. C'est pas le but d'avoir des statistiques et des chiffres, hein, mais je veux dire. Alors quelle est la leçon que je tire, moi, de ma courte expérience encore dans cette formation de la cour d'appel? Le but, nous avons un double objectif, me semble-t-il, par rapport à aujourd'hui. Hein. Le premier objectif, en règle générale, c'est de rétablir des relations de parents, hein, et faire en sorte que les parents réussissent à se reparler. Hein, ça, c'est l'objectif en règle générale, et nous estimons, et j'en suis convaincu parce que j'ai vu que ça marche, hein, nous estimons que dans la plupart des cas, c'est ça le problème. Hein, et c'est pour ça que nous essayons à la fois de les faire parler, de les faire discuter, d'arriver à un accord, de les envoyer en médiation. Le deuxième objectif, c'est de rétablir tout court les relations entre ce qui est intolérable, effectivement, hein, quand sans raison véritablement, au-delà de quelque chose absolument exceptionnel, hein, il est absolument intolérable qu'un enfant ne voit pas un de ses parents. Et ça, et là aussi, nous essayons d'user, d'abuser du poids qui nous est conféré par la Constitution, peut-être, pour rétablir ce dialogue qui est l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Enfin, cette relation. Voilà.
Bien. Je vous remercie, monsieur le conseiller.